France Culture.
C'est le journal de la rédaction. Valentin Gilles, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. Jack Lang, éclaboussé par l'affaire Epstein, est poursuivi pour des malversations financières. Le parquet national financier ouvre une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Le point au début de ce journal sur ce qui est reproché à l'ancien ministre et à sa fille Caroline. Nous prendrons également des nouvelles de l'influence américaine. Washington veut trouver un accord en Ukraine avant l'été, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Tandis qu'à Cuba, l'embargo américain sème le chaos sur une île privée de son carburant. Enfin, des artisans pêcheurs dénoncent une pêche intensive le long des côtes bretonnes. Nous en discuterons avec notre invité Gwen Pénarin, président de l'association Les Ligneurs de la Pointe de Bretagne. Quand la justice française s'empare de l'affaire Epstein, Jack Lang et sa fille Caroline sont visés par une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. C'est le parquet national financier qui l'a ouverte hier soir, alors que le nom de Jack Lang figure plus de 600 fois dans les 3 millions de documents rendus publics par la justice américaine la semaine dernière. Bonjour Lou Momège.
Bonjour Valentin.
Que reproche-t-on exactement à l'ex-ministre de la Culture ?
Eh bien, le PNF cherche à connaître l'implication de Jack Lang dans la création d'une société offshore en 2016 avec Jeffrey Epstein. Une information de Mediapart, c'est surtout sa fille Caroline Lang qui est concernée. Elle et Epstein détenaient en majorité les parts de cette société créditée de plus d'un million d'euros, immatriculée dans un paradis fiscal et non déclarée à l'administration française. Jack Lang, de son côté, dit se sentir blanc comme neige dans cette affaire et assure ne pas avoir touché un seul centime de Jeffrey Epstein. Mais en fouillant dans les documents publiés par la justice américaine, certains emails laissent entendre que le financier américain a payé plusieurs de ses déplacements en France.
Oui, depuis qu'il est empêtré dans cette affaire, les déclarations de Jack Lang sont plutôt inconstantes concernant ses relations avec Epstein.
Oui, lundi, trois jours après la publication des documents, il assume pleinement ses liens passés avec lui. Puis mercredi, Jack Lang dit avoir été naïf face à Jeffrey Epstein, assure qu'il ignorait tout de son passé criminel. Les hommes se connaissent pourtant depuis 2012 et dès 2008, Epstein est condamné une première fois pour trafic de prostituées mineures. Alors Jack Lang assure qu'il n'était pas si proche, mais dans des échanges de mails, il propose aux criminels d'aller boire un café, l'invite à une comédie musicale et il l'invite surtout personnellement à son anniversaire en 2017. Le Quai d'Orsay va donc questionner Jack Lang demain sur la nature de ses relations avec Jeffrey Epstein qu'il semble minimiser. Se pose aussi la question de son maintien à la tête de l'Institut du Monde Arabe. Pour l'heure, pas question pour Jack Lang de quitter son poste. Mais le ministère des Affaires étrangères qui finance la moitié du budget de l'Institut n'exclut pas de mettre un terme à son mandat.
Merci beaucoup Lou Momège. Il n'y aura pas d'accord sur l'Ukraine sans l'Ukraine, déclaration martelée ce matin par Volodymyr Zelensky. Les discussions évoluent depuis l'agression du pays par la Russie. Il y a bientôt 4 ans, c'est la première fois qu'une échéance précise est évoquée pour la fin de la guerre. Bonjour Sébastien Logeni.
Bonjour.
Volodymyr Zelensky affirme que les États-Unis veulent mettre un terme au conflit au mois de juin prochain.
Oui, la fin de la guerre dans 4 mois, une annonce du président ukrainien ce matin. Les Américains voudraient y parvenir, je cite, d'ici le début de l'été en juin, la Maison-Blanche qui ne confirme pas à cette heure. Les États-Unis, par ailleurs, ont invité pour la première fois des deux équipes de négociateurs sur le sol américain, probablement à Miami dans une semaine. C'est ce que dit aussi le président ukrainien qui a donné son accord, mais là non plus, pas de confirmation ni à Washington ni à Moscou. Les Américains ont-ils décidé de remettre un coup de pression ? C'est Donald Trump très agacé par le blocage des discussions qu'on a pu encore constater cette semaine lors d'un nouveau face-à-face entre Russes et Ukrainiens, ce mercredi et ce jeudi à Abu Dhabi, en présence des Américains, sans aucun résultat tangible, à part un nouvel échange de prisonniers, en attendant une nouvelle attaque russe ce matin massive contre le réseau électrique ukrainien, avec des coupures de courant à Kiev et dans l'ouest du pays, alors que les températures ne cessent de chuter, moins 20 degrés attendus en début de semaine prochaine, le réseau électrique ukrainien au bord de l'effondrement malgré les importations de l'Union européenne.
Sébastien Logeni de la rédaction internationale de Radio France, merci. Autre terrain d'influence américaine, l'Iran en pourparlers avec les États-Unis ces derniers jours à Oman. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, évoque ce matin une poignée de main avec les Américains et une nouvelle session de discussion. Mais Téhéran veut pouvoir enrichir son uranium et prévient, il visera les bases américaines dans la région en cas d'offensive de la part de Washington. Autre pays, autre nuance des pressions américaines, l'île de Cuba tente par tous les moyens de faire face à la crise énergétique qui touche le pays, du fait des sanctions maintenues par Washington qui désire plus que jamais faire tomber le régime cubain. Semaine de 4 jours, télétravail, restriction des ventes de carburant. Le pays n'a plus d'autre choix que de s'organiser en urgence, Nathanaël Charbonnier.
tenir, tout faire pour tenir et laisser passer l'orage américain qui consiste à couper l'approvisionnement de l'île, notamment en pétrole. Les autorités sortent donc toutes les mesures possibles pour réduire leur consommation énergétique. Cela va de la semaine à 4 jours, en passant par le télétravail, en réduisant les journées d'école pour les enfants. Mais on peut ajouter à la liste des restrictions de vente de carburant, des restrictions des services de bus et de train, ainsi que la fermeture temporaire de certains établissements touristiques. L'objectif final est de permettre des économies dans de nombreux domaines pour en revanche maintenir la production de nourriture ainsi que d'électricité pour les biens essentiels, notamment ceux qui génèrent des devises. Toutes ces mesures ont été annoncées par le président cubain lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision. Elles concernent les près de 10 millions de Cubains qui font déjà face depuis 6 ans à une sévère crise économique.
Nathanaël Charbonnier. Au Venezuela, le Parlement promet, lui, la libération des prisonniers politiques dès la semaine prochaine, annonce du chef de Parlement, Jorge Rodriguez. Adoption à venir de la loi d'amnistie mardi, sortie de prison prévue dans la foulée. C'est un conflit très local, mais qui raconte peut-être l'état de la politique alimentaire française. À Brest, hier, se tenait la première édition d'un festival dédié à la pêche artisanale. Et parmi les sujets abordés, celui de la régulation du chalutage à 4 panneaux, pratique de pêche impliquant de larges filets traînés par les bateaux. En Bretagne, plusieurs associations dénoncent un vide juridique qui permettrait à quelques bateaux industriels de continuer à s'approcher des côtes avec cette technique, malgré une réglementation interdisant en théorie cette pêche massive dite de chalutage pélagique sur les littoraux. Elle aurait des effets néfastes sur le tissu économique local et sur la population de poissons. Pour en discuter ce midi, l'invité de ce journal, Gwen Pénarin. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Les Ligneurs de la Pointe de Bretagne. J'ai évoqué des termes un peu techniques de chalut à 4 panneaux, de chalut pélagique. De quoi parle-t-on en quelques mots ?
Alors, pour faire assez simple, un chalut pélagique, c'est un chalut qui évolue dans toute la colonne d'eau sans toucher le fond. Après, effectivement, à l'opposé, on trouve le chalut de fond, donc qui, lui, comme son nom l'indique, touche le fond. Et entre ces deux, en fait, suite, effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a le chalut dit 4 panneaux. Donc, il y a deux panneaux qui servent à élargir le chalut et 2 panneaux qui servent à élever le chalut. Donc, c'est un chalut qui ne touche absolument pas le fond non plus, mais qui bénéficie de la réglementation du chalut de fond pour des mesures techniques qui n'ont pas évolué depuis très longtemps.
Expliquez-nous pourquoi ça pose problème justement que ce type de chalutage finalement échappe à la réglementation.
Parce qu'en fait, ils se sont mis dans la classification des chaluts de fond. Or, les chaluts de fond, la réglementation leur permet d'approcher plus de 3000 des côtes. Et le chalut pélagique, lui, est concerné, il est à plus de 9000 des côtes. Donc, c'est des bateaux qui, en se classant dans la nomenclature chalut de fond, leur permettent d'approcher à 3000 des côtes. Or, à 3000 des côtes, c'est des chaluts disproportionnés, c'est des outils très performants et ils n'ont rien à faire dans cette bande côtière, surtout en pleine période de reproduction des poissons qui sont ciblés en ce moment.
Oui, justement, pour parler de la question un petit peu écologique qui va avec, quelles sont les conséquences pour les populations de poissons ? Vous parlez justement d'impact dans des zones de reproduction pour certaines espèces.
En fait, en période de reproduction, le poisson se concentre dans des zones extrêmement restreintes, et ce qui est le cas aujourd'hui, hein, c'est dans le sud de l'île de Sein, pour faire assez simple, et le poisson qui est réparti normalement sur des distances et sur des surfaces énormes, là, dans cette période-là, c'est très 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 concentré. Donc on parle de juste de quelques terrains de foot, hein, c'est 1 mille par 1 mille la zone où ce chalutier opère aujourd'hui. Et effectivement, ça fait un mois que ça dure, et les tonnages débarqués par ces 3 bateaux, ou 2 bateaux plus précisément, sont pas du tout en adéquation avec ce qu'une ressource côtière comme ça peut absorber.
Qu'est-ce que vous craignez ? C'est la disparition, l'épuisement de cette ressource-là à terme ?
Ben oui, d'autant plus que cette flottille côtière aujourd'hui est à l'arrêt pour différentes raisons. Certains refusent d'aller pêcher du poisson qui se reproduit, d'autres sont en arrêt cétacé. Et le comble de l'histoire, c'est que ces bateaux qui sont des chaluts de pélagique devraient être aussi en arrêt cétacé. Et pour le coup, ils sont en train de ratiboiser une ressource qui, normalement, ces petits bateaux qui repartent au printemps auraient dû trouver, quoi.
Est-ce qu'on a parmi les espèces qui sont concernées des espèces menacées, par exemple ?
Alors, le problème, c'est qu'on a des espèces qui sont pas sous quota, et notamment, c'est des espèces qui font vivre beaucoup les petits bateaux. On retrouve le pagre, la dorade grise. C'est des ressources aujourd'hui essentielles à la petite pêche, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, si on n'a pas ces espèces dans cette polyvalence des petits métiers, ça peut condamner à très très court terme toute cette économie. Et je pense notamment à mes collègues d'Audierne et du port d'Audierne, où ça se passe vraiment, vraiment devant chez eux, quoi.
Est-ce qu'on peut estimer le nombre de bateaux qui sont concernés, le nombre d'industriels qui opèrent de cette manière-là ?
Alors, ce ne sont pas des bateaux industriels, hein, c'est des chalutiers qui font à peu près 16 mètres, hein, entre 15 et 16 mètres, mais qui ont des outils de bateaux industriels, et c'est pour ça qu'il y a un réel problème. Ils sont deux ou trois, et c'est là aujourd'hui qu'on ne comprend pas absolument la position de notre comité des pêches, et ni de l'administration. Il y a eu des problèmes dans le passé où des bateaux avaient bien dans les clous, si vous voulez, juridiquement parlant, mais quand on est censé gérer la ressource et la cohabitation de petits métiers comme ça dans la bande côtière, on peut prendre des arrêtés. Le comité régional est tout à fait capable de prendre des arrêtés pour qu'un équilibre se fasse.
Justement, vous avez mené une sorte de bras de fer juridique sur le sujet ces derniers mois. La préfecture a publié un arrêt en juillet pour tenter de réguler la pratique, un arrêté que vous avez attaqué en considérant qu'il ne réglait pas le problème. Le tribunal a tranché en votre faveur en décembre, mais l'État et le ministère chargé de la pêche se sont depuis pourvus en cassation. Comment est-ce que vous expliquez cette attitude des pouvoirs publics qui va à l'encontre des positions des pêcheurs artisanaux ?
Ça reste un mystère pour nous. Hein. L'équilibre, même l'équilibre économique local qu'est la Pointe du Raz et le Cap Sizun, et voilà, on ne comprend pas comment le comité des pêches ne met pas en balance toute une économie d'un port entier face à deux bateaux ou trois bateaux qui, pour eux, c'est une économie ponctuelle. Hein, je veux dire, les autres chalutiers de fond ne font pas ça et arrivent quand même à s'en sortir. Donc, pour nous, c'est vraiment incompréhensible et on se demande, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, quoi.
Le cas qu'on évoque, il est très localisé. En deux mots, est-ce que vous considérez que ça représente aussi la manière dont est traitée la pêche, la petite pêche en France par rapport aux pêches industrielles ?
Oui, enfin là, alors pour le coup, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière cette histoire de quatre panneaux, mais d'une manière générale, et le festival dont vous avez parlé en début d'émission en est la preuve. Aujourd'hui, les petits pêcheurs, ou les petits métiers plutôt, se regroupent et leur seule voie aujourd'hui pour s'exprimer, c'est à travers les associations. Alors, vous avez cité la nôtre aussi, mais il y a aussi Cap Sizun qui est importante. Et d'ailleurs, on travaille ensemble pour essayer d'avoir gain de cause sur ce dossier. Mais aussi, il y a Pleine Mer qui a organisé ce festival. Donc, on voit bien qu'il y a un souci. Ces associations, aujourd'hui, n'existeraient pas si tout marchait bien dans les comités.
Merci beaucoup, Gwen Pénarin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'association Les Ligneurs de la Pointe de Bretagne. Et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. J'ajoute à ce sujet que de l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump a autorisé cette nuit la reprise de la pêche commerciale dans une zone de quelques 13 000 km², une zone qui était protégée depuis 2016 et connue notamment pour sa biodiversité. La primaire de la gauche a-t-elle déjà du plomb dans l'aile ? Nouvelle attaque ce matin par le patron des députés socialistes Boris Vallaud dans une interview donnée au Nouvel Obs. La primaire telle qu'elle se dessine n'est pas suffisante selon lui. Il plaide pour un rassemblement plus large de la gauche, de François Ruffin, Raphaël Glucksmann, mais sans la France Insoumise, à condition de trouver d'abord un candidat issu du Parti Socialiste. Boris Vallaud n'explique pas pour l'instant s'il sera candidat. Enfin, et si vous marchiez précisément quelques 5,04 km, soit la distance que l'on parcourt chaque mois avec son pouce sur les réseaux sociaux. C'est le concept d'une marche qui se déroule ce samedi dans une douzaine de villes dans le monde et notamment Paris et Marseille. Cette opération, baptisée Off February, invite à retrouver une certaine sobriété numérique, Cyril Ardo.
L'objectif pendant un mois n'est pas de bannir les réseaux sociaux, mais d'en limiter l'usage en désinstallant les applications TikTok, Instagram ou Facebook qui nous assaillent chaque jour de notifications. Et Diego Hidalgo de Meusois, à l'origine de l'initiative, encourage même les participants à aller plus loin.
Nous invitons les participants à désinstaller n'importe quelle application pour lesquelles ils considèrent qu'elle leur prenne plus de temps que la valeur qu'elle ne leur apporte. Pour certains, ça va être un jeu vidéo. Pour d'autres, ça va être une appli qui permet de suivre les cours de la bourse et qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils l'ouvrent des dizaines de fois par jour.
En moyenne, on passe chaque mois 54 heures sur les réseaux sociaux. Le mouvement OFF considère que les géants du numérique font tout pour nous rendre dépendants. Cela leur permet de collecter toujours plus de données sur nous. Et ce temps passé en ligne n'est pas sans conséquence, selon Diego Hidalgo de Meusois.
Le premier et le dernier objet de la journée qu'on prend, c'est son smartphone. Il y a de plus en plus de cas de réveil nocturne qui montrent que même pendant la nuit, les personnes se réveillent et puis tout de suite, ils voient une notification. Et puis ça fait qu'ils finissent par passer une demi-heure pendant la nuit sur les réseaux.
Alors se tenir éloigné des réseaux pendant un mois, c'est un bon début, même si ce n'est pas forcément suffisant, selon Séverine Herrel, professeure en psychologie du numérique.
Une opération de sensibilisation, c'est toujours bon à prendre. Par contre, j'ai un peu peur qu'au final, elle ne contribue pas à résoudre le problème de fond, qui est bien un problème de régulation des plateformes. On va réinstaller et on va être soumis exactement au même type de système prédateur. Donc c'est vraiment une discipline personnelle et se dire il faut qu'on en sorte.
Cette spécialiste recommande par exemple de définir des limites de temps qui bloquent certaines applications une fois la durée atteinte.
Cyril Ardot, votre météo ce samedi après-midi, pluvieuse au nord-ouest, vigilance orange cru pour le Finistère et le Morbihan, des nuages sur le sud-est, des éclaircies partout ailleurs, température toujours aussi douce, 12 degrés à Paris, à Rennes et à Lille.